Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 3 en France, il est 18h03 ici dans le studio new-yorkais de l'After. Daniel Riolo est là, Maxime Chano est là également. On est là jusqu'à 1h du matin. Oh, c'est la première fois qu'on a un seul match depuis le début de la Coupe du Monde, sauf le jour du match d'ouverture.
Oui, c'est très bizarre.
Hier, on en avait 6, on était gavé de matchs.
On peut se parler au moins, c'est intéressant.
Voilà.
Hein, c'est bizarre la façon dont c'est calé.
Ouais, c'est... Hein. Bah, là, le calendrier pour tout rentrer, effectivement, c'est un peu au chausse-pied. Mais là,
très bien.
Bon, bref, voilà.
On se rattrape demain.
Demain, un gros programme.
On commence à 13h avec Brésil-Japon.
Demain, gros programme dans la nuit de l'after. Alors 13h, oui, toi tu parles en heure d'ici, en heure américaine.
Ah bah oui, moi je suis en mode US. Hein.
Toi t'es un Américain maintenant, Daniel. Donc effectivement...
Donc 19h.
19h Brésil-Japon demain.
Est-ce que Neymar sera titulaire?
Ah, alors là...
Non, parce que comme il y a quelques jours, il était titulaire dans une boîte à New York...
C'est possible. Est-ce que tu as vu la réaction de David?
22h30 demain, Allemagne-Paraguay, pardon. Excuse-moi, Max. Et puis, le match Pays-Bas-Maroc, ce sera à 3h du matin. Dans la nuit de lundi à mardi.
C'est vrai qu'on aurait pu en mettre 21h ou 22h pour nous.
21h pour nous.
On aurait pu mettre un deuxième match aujourd'hui. Ouais,
donc tu disais oui.
Non, je disais, est-ce que vous avez vu la réaction de l'entraîneur adjoint du Brésil, David Ancelotti, sur l'entrée de Neymar? Il n'avait pas l'air très très content de le voir jouer. Hein. Voilà, c'était comme quoi je suis pas sûr qu'il fasse l'unanimité au sein de la.
Je me méfie toujours avec les histoires au Brésil parce que des fois il y a beaucoup de fake news.
Petite histoire drôle quand même. Je faisais aujourd'hui le RMC Poker Show et en ce moment il y a les championnats du monde de poker et on m'a dit qu'il y avait un bet qui avait beaucoup de succès, donc un pari qui encaissait pas mal. C'est à quel moment Neymar va débarquer?
Ah, s'ils perdent demain, peut-être que demain soir, il est là-bas.
Fort possible.
Match à 13h, heure américaine.
Ouais. Ça finit pas, à 15h. Entre deux matchs, un aller-retour, il est possible, puisqu'il a fait ça pour aller en boîte à New York. Donc,
fort possible. Voilà.
En tout cas, il y a un bet qui marche pas mal à Las Vegas autour de sa présence.
Il vit sa Coupe du Monde à fond.
Valentin Jamain est là, il suit l'équipe de France avec notre équipe de reporters sur place à Boston. Valentin, bonsoir.
Bonsoir les amis, bonsoir à tous.
Salut Valentin, quelle est l'actu de l'équipe de France aujourd'hui? Que s'est-il passé?
Alors, ils viennent d'arriver à New York, les Français qui se sont entraînés à 17h française, donc à 11h ici ce matin, entraînement à huis clos à la Bentley University. C'est assez légère, hein. Il n'y a pas eu de mise en place de la part de Didier Deschamps et de son staff. Deux joueurs qui ont été ménagés, N'Golo Kanté qui a couru à part avec le préparateur physique Cyril Moine et Marcus Thuram qui traîne une blessure au mollet, une gêne au mollet, donc il s'est contenté de faire le début de l'entraînement, un petit peu de vélo, et puis il est rentré un petit peu plus tôt que tout le monde, sinon tout le monde était sur le pont. Demain, entraînement de veille de match, on devrait y voir beaucoup plus clair sur la composition d'équipe puisqu'il y aura là une mise en place. La tendance quand même, c'est que ça bouge notamment côté gauche puisque Théo Hernandez impliqué sur le pénalty contre la Norvège, sur le but encaissé contre le Sénégal, est en ballotage défavorable a priori légèrement face à Lucas Digne. Encore une fois, on y verra un petit peu plus clair demain. Et puis il y a la carte Bradley Barcola que pourrait peut-être abattre Didier Deschamps à la place de Désiré Doué.
Donc une sorte d'alternance Barcola Doué qui pourrait donc continuer en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en pensez les gars?
Je trouve ça bien. Je trouve que ça donne l'opportunité justement à cette équipe de France d'être encore plus dangereuse et de d'avoir des possibilités dans la profondeur. C'est pas forcément le cas avec tous ces joueurs, ce quatuor offensif dont Désiré Doué qui aime particulièrement demander les ballons dans les pieds. Après, c'est surtout le turnover de Didier Deschamps qu'il faut mettre en avant quand même. Moi, je trouve ça assez courageux de sa part d'avoir tous des joueurs qui restent concernés. Et non, on va voir ce que ça va donner. Moi, ma vraie interrogation, c'était plutôt sur le poste d'arrière gauche. Voilà, moi, quand je vois le niveau de compétition, enfin le niveau affiché par Théo Hernandez depuis le début de cette compétition, je comprends pas comment il a encore eu le droit au chapitre, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais concernant Barcola, je trouve que c'est une bonne option en effet pour cette équipe.
Après le match contre la Norvège, tout le monde était à peu près d'accord pour dire que Barcola c'était mieux que Doué sur ce match.
Écoute, je pense qu'il y a deux postes et demi où jusqu'au bout, il est pas sûr qu'on ait quelqu'un qui tienne la corde définitivement. Ça peut alterner, ça peut se partager les matchs. Là, je parle de Barcola Doué. À gauche, arrière-gauche, je pense que ça peut se décider. Dès le premier match des 16e, il peut y avoir une tendance. Dès le premier match, donc contre la Suède, si Digne est titulaire et qu'il fait un bon match, il y a moyen qu'il ne bouge plus et que le passage de témoin soit définitivement fait. Je pense que c'est là que ça va se jouer. Et idem pour le dernier poste au milieu, si Rabiot joue contre la Suède, ça veut dire qu'on revient à quelque chose de classique chez Deschamps, l'association de Tchouaméni-Rabiot. Pour le reste, les joueurs, on les connaît, tous à leur place, ils ne bougeront plus. Moi, ça me dérange pas que Barcola et Doué se partagent le match et est-ce en que fonction
tu,
du besoin.
Est-ce que tu penses que Deschamps travaille en doublette, c'est-à-dire Dean Barcola contre Théo Hernandez, Désiré Doué?
Ah, en fonction des qualités des uns et des autres. Ah oui. En plus, il aime ce genre d'association Deschamps et c'est tout à fait normal de faire attention à la façon dont les deux vont pouvoir s'associer. Oui.
C'est une option.
Valentin, autre chose ou t'as fait le tour? Ils sont au même hôtel que lors du match contre le Sénégal, là, dans le New Jersey, les Français?
Oui, exactement. Ils sont dans le Westin, ils s'appellent, je crois, dans le New Jersey.
Ils sont pas très loin de chez eux.
Ah, ben, on est pas loin de chez eux, là.
Mmh. Voilà, c'est ça.
Pas comment ils s'appellent? Attends, je vais voir si on est vraiment tout près, là. Je vais me faire un petit plan dans le téléphone.
W-E-S-T-I-N.
W-E-S-T-I-N. Westin.
Avec, normalement,
The Westin, Jersey City Newport?
Oui, c'est ça, exactement. Je pense que c'est ça.
Oh là là.
On
va
faire un petit coucou.
Une petite demi-heure en bagnole.
Ah, quand même.
Ah ouais.
Une demi-heure en bagnole.
Et en footing.
Donc, ils ont voulu se mettre pas trop loin du stade.
25 minutes.
La conférence de presse.
Ah, si, Gilbert Cour.
A voulu arriver.
De toute façon, on aura a priori la compo, comme d'habitude. Vous êtes ultra performant pour ça. Donc, on saura et on pourra continuer le débat. Merci, Valentin. Donc, l'équipe de France est à New York. Et...
conférence de presse à 17h30. Si vous voulez vous brancher, évidemment, soyez là.
Très bien. Max.
Jules Koundé, le débat est clos, oui.
Bah écoute, j'ai bien l'impression.
Oui.
Hein.
D'accord.
Oui, bah de toute façon, il n'a pas donné sa chance à Malo Gusto une seule fois en poule comme titulaire. Donc, on le voit.
Et il y a une raison à ça, ou officielle ou officieuse, je ne sais pas. Mais,
Il avait la volonté de donner de la confiance à Jules Koundé. Alors, on avait la sensation, voire la petite tendance de voir Malo Gusto éventuellement débuter face à la Norvège. Et ce qui nous a été dit, c'est qu'on voulait donner de la continuité, de la confiance et de la constance à Jules Koundé, qui est donc dans l'esprit du staff le numéro 1, qui avait été un petit peu moyen sur les deux premiers et même sur le troisième match.
Sur les trois matchs.
L'esprit du staff, il y a quand même un numéro 1 assez clair.
D'accord.
On est d'accord.
Merci Valentin, bonne soirée. Max a un avis. Max veut parler des égos en équipe de France. Toujours intéressant. Il y a les égos dans l'afterfoot, il y a aussi les égos en équipe de France.
Dans l'afterfoot, il y en a.
Jingle Shadow.
C'est beau, hein. Et sache-le.
Ça, c'est l'IA, c'est fake.
Ouais, je suis en train de me poser la question.
Oh, parlant de l'IA, c'est fake. Il y a de plus en plus de vidéos IA qui de tournent sur qui moi, marque. Je sais pas comment faire. Hein.
Ah, d'accord.
Mais là, on était sur les fake.
Non, mais là, en train de marquer des buts ou pas, Daniel? Parce que si vraiment.
For New York City, Daniel Riolo.
Parce que s'il y a des.
Ça, c'est fake.
S'il y a des vidéos de buts de foot de toi qui tournent, Daniel, là, on sait vraiment que c'est fake. Oui,
donc les égos.
Bah, mon avis, alors c'est plutôt un constat. Alors, moi, j'ai beaucoup parlé des égos avant de cette compétition et notamment par rapport à la qualité offensive de ce quatuor qui avait été mis en place par Didier Deschamps, et je dois bien admettre que je me suis trompé. Voilà.
Pourquoi t'avais dit quoi pour ceux qui ont raté?
J'avais un peu peur. Je m'étais inquiété sur le fait qu'on avait un Ballon d'Or en titre, qu'on avait un Kylian Mbappé qui avait.
Ils vont pas réussir à cohabiter.
Une saison moyenne. Et je parlais.
Parce qu'il y a trop de boulards et d'égo.
C'était un peu ça, et on l'a vu sur certaines nations, et je pense bien évidemment au Portugal, mais je dois forcer de constater qu'aujourd'hui, dans cette équipe de France, je vois tout sauf l'inverse, et ça, j'ai envie de le mettre en avant. Voilà, déjà faire mon mea culpa en ayant dit, en tout cas en ayant affiché un petit peu mon pessimisme par rapport à justement l'entente qu'il aurait pu avoir dans cette équipe de France. C'est vrai qu'on a longtemps fait un débat, enfin, pas forcément moi, mais l'opinion publique en règle générale, on a essayé de mettre l'un contre l'autre un Ousmane Dembélé et un Kylian Mbappé. Et quand je vois aujourd'hui cette équipe de France, la manière dont elle joue, la manière dont ça sourit, la manière dont ça se comporte, mais j'ai envie de dire bravo messieurs, bravo à Didier Deschamps qui est arrivé justement à créer un petit peu une culture collective qui est juste exceptionnelle. Et quand tu regardes un petit peu les qualités individuelles de cette équipe de France, la manière dont les joueurs défendent, parce qu'on a souvent mis aussi Mbappé dans une situation comme quoi il défendait pas. Moi, ce que j'ai vu d'Mbappé sur les deux derniers matchs, je le dis encore une fois, c'est un capitaine qui est en mission, c'est un capitaine qui sourit, c'est un capitaine qui célèbre les buts de ses copains. Là, on l'a vu sur le match de la Norvège, sur le premier but de Dembélé, où est-ce qu'il lève les bras comme si c'était lui qui avait gagné. C'était la même chose avec Ousmane Dembélé, qu'on a quand même fortement critiqué en début de ce tournoi, et notamment après son non-match contre le Sénégal, où quand Mbappé marque, et ben il s'est promis à aller aussi célébrer le but de son copain. Donc voilà, j'avais envie de mettre ça en avant, j'avais envie de mettre, en tout cas, donner du crédit à Didier Deschamps, qui est arrivé en tout cas à créer une cohésion d'équipe équipe. On le voit dans les comportements sur le terrain, mais aussi en dehors. Un Konaté qui joue très peu ou un N'Golo Kanté. Bon, c'est pas une nouvelle, mais malgré tout, qui continue à sourire. Voilà. Aujourd'hui, on le sait que tu gagnes évidemment le, un tournoi sur le terrain, mais c'est aussi très, très important d'avoir une cohésion d'équipe en dehors. Et ça me rappelle indirectement un petit peu ce qui s'est passé en 2018 avec un groupe qui vivait très bien. Alors, attention, parce que pour l'instant, les résultats sont positifs. 3 matchs, 3 victoires. Il faudra voir si jamais on avait un match qui serait loupé. Mais voilà, j'avais envie de mettre ça en avant et tirer mon chapeau à tous ces messieurs qui, malgré en tout cas leur, leur carrière et leur, leur qualité individuelle, se mettent au service du collectif. Et pour moi, et je terminerai avec ça, je pense que c'est de bon augure en tout cas pour aller chercher cette troisième étoile.
Daniel, c'est le mérite en revient à Deschamps ou aux joueurs eux-mêmes qui en fait sont pragmatiques?
L'ensemble, en tout cas je ne retire pas une virgule à ce qu'a dit Max, mais si tu nous avais écouté, tu aurais su que ce que tu sembles découvrir, on le vantait depuis pas mal de temps. Et personnellement, j'ai toujours mis en avant la façon dont ce groupe avait décidé depuis pas mal de temps maintenant d'aller chercher cette Coupe du Monde, ou en tout cas de tout faire pour l'obtenir. Et la construction de ce groupe, elle est absolument parfaite. Et tout ce que tu dis, je ne vais pas le répéter, je suis d'accord. Voilà.
Le pavillon
témoin. On est
pas
positif sur l'équipe de France.
Le pavillon témoin de tout ça, c'est la relation Mbappé-Dembélé, où en fait, c'est vrai que.
Mais pas que Mbappé.
Il y a une espèce de réflexe, je sais pas d'où il vient, de vouloir essayer opposer l'un à l'autre.
Mais c'est juste
au
un
final,
réflexe de pote.
Tout va bien, quoi.
C'est juste un réflexe de pote, c'est des amis. Mmh. Ils sont très très potes.
Ouais,
mais ils sont potes aussi avec Marcus Thuram. Mais non, mais on a le droit d'avoir des amis dans le foot.
Bien sûr, ouais.
Mais on a le droit d'avoir des très bons amis, c'est des très bons potes. Pareil, Marcus Thuram est également un super pote à eux.
Mais j'en ai vu des très bons potes une fois que tu arrives en compétition. Daniel, quand l'autre marque 3-4 buts, et tu l'as un petit peu à travers la gorge parce que tu te dis bon.
T'as pas eu de très bons potes alors mon vieux. Alors, je suis désolé.
C'est moi qui n'étais pas un bon pote.
Je sais pas, mais.
J'entends ce que tu veux dire.
Moi, je sais pas pourquoi on doit toujours essayer de trouver un point négatif. Moi, ça fait des mois que je dis. Alors, c'est vrai que ça a été alimenté sur les réseaux par les clubistes du PSG qui veulent tellement que Dembélé brille. Mais on le veut tous que Dembélé brille. On adore ce qu'il fait avec le PSG. Ça n'a pas toujours été facile pour lui une équipe de France. Ça l'a été beaucoup plus dans le dernier match. Et puis comme leur idole Dembélé, c'est ça en fait. C'est là où les clubistes parisiens ont la tête à l'envers. C'est que leur idole Dembélé, celui qui a permis au club, en tout cas c'est un des acteurs majeurs du back-to-back, est le meilleur pote du mec qu'ils détestent et qu'ils haïssent. Bon bah oui, mais c'est bien la preuve que vous êtes bête en fait, parce qu'il y a aucune raison de détester Mbappé et vous avez toutes les raisons du monde d'aimer Dembélé. Donc si vous étiez un petit peu moins bête, bah vous n'auriez pas cette réaction stupide d'essayer de les monter les uns contre les autres ou de dire ah ouais il lui a piqué sa place ou Dembélé n'est pas épanoui à cause non. C'est deux super potes, c'est possible, ça existe dans le football, il n'y a pas de rivalité entre eux. Voilà, et ce groupe vit remarquablement bien. Donc soyez contents pour l'équipe de France si ça vous intéresse. Et s'il n'y a que le PSG qui vous intéresse, eh bien regardez pas l'équipe de France, désolé les amis.
L'équipe de France que le monde entier va gagner la Coupe du Monde, on va en reparler dans quelques instants, sans oublier l'Algérie et le reste de l'actu du jour. On entendra notamment Romario tout à l'heure.
Romario.
Exactement, qui a répondu à une interview exclusive des Nuits de l'After. On vous expliquera pourquoi, comment.
Est-ce que ça a été mené par le... bilingue Kevin Diaz.
Oui.
En portugais.
Ah ouais. On n'est pas sûr de la traduction parce que j'étais là.
Bilingue.
Ouais. Enfin, trilingue apparemment.
Il est tout bilingue. Il est multilingue.
Oui. Soi-disant, il parle 5 langues. Il parle 5 langues. Mais je dois vous avouer que ça m'est arrivé de devoir traduire ce que Kevin disait en anglais. Hein.
Oui. Ça, oui.
Donc, son anglais est quand même.
C'est marrant. Il nous a dit la même chose.
Moi, c'est en français. Je parlais du portugais, qui est quand même une partie de sa famille.
En tout cas, Romario a l'air de l'avoir compris.
Bon, très bien. Tant mieux.
Alors, je vous livre une petite anecdote exceptionnelle. Antoine Vernier nous a parce que c'est lui qui a tout organisé, notre producteur, et le Kevin Diaz arrive devant Romario et il dit hey, moi aussi j'ai joué à Eindhoven, et là Romario fait ah ouais, ah génial et tout, ah ouais mais ouais, FC Eindhoven, ah ok.
C'est vrai, voilà. C'est en vrai,
mais il a quand même serré la main. Ah, il était dans le club d'en face. C'est un peu comme si tu as t'as joué à Munich ? Oh, au Bayern ? Non, au Munich 1860.
Ah ouais,
écoute, ça va.
Ça, c'est l'histoire d'Amédi Pelé, en fin de carrière.
Tu la connais, Max, l'histoire d'Amédi Pelé ?
Dites-moi.
Bah, Amédi Pelé, fin de carrière, il est transféré à Munich.
Okay.
Il arrive, il y a un gars qui vient le chercher.
Il n'était pas au courant.
Il y a un gars qui vient le chercher, qui l'emmène au club et tout. Et là, Amédi Pelé, il dit mais on joue pas en rouge ? Et il dit ah non, ici, on joue en bleu. C'est Munich 1860.
Ah, la question c'est de savoir s'il avait déjà signé son contrat ou non.
Ah oui,
bah, ouais, trop tard. Ouais. Bah, ça m'a fait la même chose avec New York City. Ouais. Je pensais que c'était Manchester City. Je me suis
dit voilà, MLS. Bon, tu t'es rattrapé sur la ville.
Est-ce qu'il peut y avoir la même chose entre New York City et New York Red Bull ou c'est
même non, mais entre New York City et Manchester City, parce qu'il faut savoir que moi, quand je fais, quand je signe à New York City, je vais faire ma visite médicale à Manchester City.
Oui, d'accord, mais enfin,
donc.
Tu savais que tu venais à New York.
Oh, bah attends, on sait jamais, imagine.
Ah, bah là, quand même, t'as pris l'avion, je croyais que c'était pas une heure d'avion, c'était 8 heures d'avion quand même.
Je me suis retrouvé en tout cas en MLS, ouais, pas en première ligue.
Bon. Allez, à tout de suite dans l'after, on revient avec l'équipe de France au programme.